Radio Okapi.
Oh, Okapi.
À la présentation, Blaise Chindani Kambala. D'abord, les sommaires de ce journal. Dans une déclaration conjointe sur les corridors de l'Obito, les gouvernements américains et la Commission européenne réaffirment leur engagement commun à promouvoir la paix, la sécurité et la croissance économique dans la région des Grands Lacs en Afrique. Les bilans des dégâts causés par la pluie diluvienne accompagnée d'un vent violent du 28 novembre dernier à Kindu s'est alourdi. Désormais, ce sont 3413 maisons endommagées et non 3227 comme annoncé auparavant. Le service de la protection civile qui donne ce bilan définitif appelle la population à planter les arbres pour lutter contre les intempéries. L'invité de ce journal est Francine Muyumba, sénatrice honoraire et cadre du Front commun pour le Congo FCC. Elle réagit à la signature jeudi de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington DC. Elle reste sceptique quant à la mise en œuvre des engagements pris au regard, selon elle, du climat de méfiance ayant caractérisé les signataires. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Dans une déclaration conjointe sur les corridors de l'Obito publiée ce vendredi, dont une copie est parvenue à Radio Okapi, les gouvernements des États-Unis et la Commission européenne réaffirment leur engagement commun à promouvoir la paix, la sécurité et la croissance économique dans la région des Grands Lacs en Afrique. Ils s'attachent ensemble à créer les conditions nécessaires pour accroître les investissements américains et européens dans la région, reconnaissant que les développements économique constitue un pilier essentiel de la stabilité à long terme. Jude Mister Bilandankumar.
Au cœur de cet effort figurent les corridors de l'Obito, un projet d'infrastructure transformateur qui renforcera la connectivité régionale, sécurisera les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques et stimulera une croissance économique durable. En reliant la RDC au port atlantique de l'Obito en Angola, les corridors de l'Obito ouvrira de nouvelles perspectives pour les échanges bilatéraux entre l'Afrique centrale, les États-Unis et l'Europe. Les gouvernements des États-Unis et la Commission européenne travaille en étroite collaboration avec les acteurs du secteur privé et les partenaires africains afin de réhabiliter et de moderniser les corridors de l'Obito, garantissant ainsi son succès en tant que catalyseur du développement régional. Les gouvernements des États-Unis et la Commission européenne se tiennent prêts à examiner les options de financement possibles pour des propositions qui assureraient la synchronisation avec les travaux de réhabilitation en cours du côté angolais afin d'optimiser l'efficacité et la réussite de l'ensemble du projet.
Par ailleurs, le parti politique ANC, Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, a félicité le président de la République démocratique du Congo pour la signature d'un accord de paix avec le Rwanda jeudi 4 décembre à Washington DC. Dans une déclaration faite vendredi le 5 décembre, le parti cher à Norbert Basengezi Kantitima parle d'un geste fort en faveur de la stabilité régionale, saluant le courage politique du chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi. Par ailleurs, l'ANC sollicite l'application de la résolution 2773, la mise en application de cet accord et un plan de type Marshall pour la reconstruction de la RDC. Suivez un extrait de cette déclaration lue par Maître Jacques Kabe Kankisingi, secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques et porte-parole du parti.
Par ailleurs, l'ANC sollicite l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la mise en application de cet accord, la redynamisation de la communauté économique des pays des Grands Lacs, CPG en sigle, et un plan du type Marshall pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Comme pour la France et l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi devraient désormais, à partir de cet accord historique, fumer un calumet de la paix et revenir à la vie d'avant 1993. Enfin, l'ANC félicite et encourage une fois de plus son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa diplomatie active afin de faire aboutir le processus de Doha avec l'AFC M23 sous l'égide du Qatar et offrir ainsi aux Congolais l'occasion de passer les fêtes de Noël et de Bonne Année 2026 dans un Congo uni, souverain et prospère.
L'ANC exprime d'autre part sa gratitude au président américain Donald Trump ainsi qu'à son Altesse l'émir du Qatar Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et à tous les chefs d'État et gouvernements africains qui ont accompagné ce processus. Dans la province de l'Ituri, environ 200 000 victimes des crimes internationaux ont bénéficié d'un soutien psychologique, médical et matériel du fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces chiffres ont été publiés jeudi à Bunia lors d'un atelier de présentation des résultats des projets d'assistance. Le gouverneur des provinces a salué l'impact de ces interventions qui contribuent à restaurer le bien-être des victimes et à renforcer leur résilience ainsi que leur autonomie socio-économique. Isaac Remoyope, reportage.
Les bénéficiaires de ces projets sont des survivants des violences, des victimes des tortures, des mutilations, ainsi que d'autres crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Parmi eux, Mave Kabona, dont les pieds avaient été amputés en 2017 lors des violences au village de Tutu dans les territoires de Djougou. Grâce au fonds au profit des victimes et la récit des soins, elle marche aujourd'hui avec des prothèses et a appris la couture. Elle a récit une machine à coudre qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Ils m'ont pris à charge jusqu'à ce que j'ai une prothèse. Ils m'ont donné une machine à coudre, m'ont appris à coudre et m'ont aussi remis un peu d'argent. Aujourd'hui, je me porte mieux et je suis devenue autonome.
Tous les bénéficiaires ont été formés à des métiers professionnels et ont reçu un appui financier pour lancer des activités génératrices de revenus, en plus d'un accompagnement médical et psychologique. Des actions saluées par le gouverneur de province, le général Johnny Luboya, qui estime qu'elles viennent en appui aux efforts des gouvernements dans la recherche de la paix.
Je remercie aussi les partenaires. Parce que ce n'est pas facile. 25 ans de travail, vous êtes là présent.
Ces projets mis en œuvre sur une période de 5 ans ont néanmoins été confrontés à plusieurs défis, notamment l'accès difficile à certaines zones et les déplacements répétés des victimes en raison de l'insécurité. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le député national et ancien gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzazu Kasivita, demande au gouvernement congolais de reconduire le décret portant mesures d'allègements fiscaux, douaniers et de recettes non fiscale en faveur des opérateurs économiques œuvrant dans les provinces sous état de siège. Dans une lettre adressée à la première ministre et dont une copie est parvenue ce vendredi à Radio Capi, l'élu du territoire de Beni sollicite également le renouvellement du décret portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans le domaine de la cimenterie et de l'immobilier en vue de soulager les populations du Nord Kivu et de l'Ituri victimes de l'activisme des groupes armés. On écoute Karli Nzazu dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Comme vous le savez, la guerre, que ce soit de l'agression rwandaise, mais que ce soit aussi le fait de sécurité des groupes armés locaux et étrangers, les ADF, ces différentes guerres ont un impact très négatif sur les affaires, sur les investissements, mais aussi sur les conditions de vie de la population. C'est comme ça que plusieurs fois le gouvernement a été sollicité pour accorder des allègements fiscaux à la population. Le gouvernement avait accéder à la demande, assignant le décret numéro 24/17 du 21 novembre 2024. Ce décret a accordé des allègements fiscaux, même douaniers, sur certains produits. Nous sommes en train de solliciter la reconduction de ce décret parce que la situation reste telle qu'elle. Si vous regardez au niveau, par exemple, du secteur des carburants, au niveau de la province du Nord Kivu, par exemple, la taxe sur les carburants avait été augmentée de 1000 dollars à 3000 dollars, contrairement au décret du Premier ministre. Au niveau de l'Ituri, la parafiscalité sur les carburants est allée de 1000 dollars à 1500.
Un document qui réunit toutes les lois de la RDC et les bonnes pratiques pour décourager la corruption dans les secteurs miniers a été présenté ce jeudi à Kinshasa lors d'une rencontre de sensibilisation sur la lutte contre la corruption dans les domaines miniers organisée par l'Initiative pour la transparence des industries extractives. C'est une organisation qui œuvre pour la transparence dans les secteurs extractifs et la gestion des ressources naturelles. D'après le coordonnateur de cette organisation, Jean-Jacques Kayem, l'objectif est de renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur minier. Plus de détails avec Josué Kefebé.
Cette rencontre a réuni plusieurs personnalités, d'ailleurs, et de la RDC, notamment Guylaine Yembo, ministre d'État, ministre du Plan et Coordination de l'Aide au Développement. Selon lui, corriger la corruption va renforcer l'image de la RDC dans l'investissement du secteur minier.
Y remédier permettra à notre pays de promouvoir son image comme destination fiable des investissements étrangers dans le secteur minier, de renforcer les capacités de l'administration minière, garantir la valeur ajoutée par la transformation locale, gage du vrai profit.
Pour Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ce livret est un outil pour information des bonnes pratiques dans les secteurs miniers.
Ce livret a été fait pour essayer de mettre ensemble toutes les lois et toutes les bonnes pratiques, afin que quand vous commencez à parler de l'établissement du registre des bénéficiaires effectifs, que vous puissiez, dans un document, voir quelles sont les dispositions légales, quelles sont les bonnes pratiques qu'il y a autour de nous pour l'établissement. C'est pour ça qu'on a fait ce livret, pour que nous soyons tous informés.
Cette rencontre de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année.
Restons dans la capitale où l'inspection générale des finances, IGF, évalue les compétences de ses agents et cadres afin de répondre aux défis de la gouvernance financière du pays. Pour ce faire, elle a fait recours à l'École nationale d'administration, ENA. Ces deux établissements publics ont signé ce vendredi un protocole d'accord pour la réalisation de cet exercice interne. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le partenariat entre l'Inspection générale des finances et l'École nationale d'administration a été scellé à la salle de l'amphithéâtre Léon Kazumba au troisième niveau de l'immeuble Etienne Tshisekedi. À travers cet exercice, le chef de service de l'IGF explique vouloir s'assurer des compétences disponibles pour mener à bien les missions de contrôle. Il indique que cette évaluation permettra de placer la bonne personne à la bonne place afin de rénover les méthodes de travail et transformer le processus de contrôle des finances publiques. Christophe Bitassimois précise également que cette évaluation précède des formations de renforcement des capacités destinées à affecter de manière rationnelle les agents et cadres.
Il est tout à fait logique qu'il soit précédé d'une évaluation des compétences de manière que nous puissions bien cibler les renforcements des capacités qui vont avoir lieu à partir du premier trimestre de l'année prochaine.
Pour sa part, le directeur général de l'ENA s'est réjoui d'avoir été associé au processus d'accompagnement de l'IGF. Il a promis de réaliser cette mission avec efficacité et dextérité afin de contribuer au renforcement de l'État.
Nous emploierons notre rigueur habituelle pour réaliser cette mission avec efficacité.
Ce bilan de renforcement des compétences s'inscrit dans la mise en œuvre du plan stratégique 2026-2028 de l'Inspection générale des finances centré sur le développement des compétences internes.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a visité ce jeudi 4 décembre les chantiers des avenues Kwilu, Manzengele et Kimwinza dans la commune de Makala où les travaux de bétonnage ont complètement été achevés. Des détails avec Rachel Kalombe.
Longue de 2,6 km, la boucle de Kwilu Manzengele a été bétonnée, tandis que l'avenue Kimwinza, quant à elle, n'est bétonnée que sur 2,8 km dans son tronçon situé entre les avenues Kikwit et Bypass. Actuellement, il ne reste que les marquages au sol et la mise en place de l'éclairage public annoncé dans les prochains jours par le gouverneur Daniel Bumba qui invite la population de ces coins de la capitale à protéger ses infrastructures.
Hommage mérité au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est derrière sa vision que nous avons fait entrer le béton qui fait partie de son identité dans tout Kinshasa. Depuis que le Congo a existé, c'est aujourd'hui que la commune de Makala vient d'avoir sa route principale.
Notons qu'avant sa descente dans la commune de Makala, le gouverneur Daniel Bumba a inspecté les travaux de reconstruction du pont Victoire sur la rivière Kalamu au niveau de l'école de navigation. Ces travaux s'étendent sur 4 mois et visent à fluidifier la circulation et à mettre fin aux inondations récurrentes dans cette partie de Kinshasa.
Dans la province du Maniema, les dégâts de pluie diluvienne accompagnés d'un vent violent du 28 novembre dernier à Kindu restent d'actualité. Désormais, ce sont 3413 maisons endommagées et non plus 3227 maisons. Le service de la protection civile qui donne ce bilan définitif appelle la population à planter les arbres pour lutter contre les intempéries. Michel Walanga Bali fait cependant savoir que les sinistrés vivent dans des conditions insupportables. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous avions parlé et pour les bilans provisoires, c'était de 3227. Maintenant, aujourd'hui, je viens avec les bilans définitifs. Les 3413, il s'observe, il y a 186 maisons qui viennent s'ajouter. Et pour les autres cas, des blessés ou des écoles, ces cas restent un peu intacts. Mais on ne peut pas clore aussi cet appel avec un conseil aux populations, parce que les populations doivent savoir que pendant cette période, c'est une période qui s'annonce mal et ils doivent prendre certaines mesures et appliquer les mesures de mitigation pour lutter contre les intempéries. Ils doivent consolider leurs toitures et aussi, au besoin, de planter les arbres pour lutter toujours contre les intempéries. Même pour les écoles doivent aussi planter les arbres. On ne peut pas toujours être là pour déplorer les cas, mais aussi, ils doivent appliquer les conseils que la protection civile leur disponibilise. Toujours. Ici, nous prodiguons les conseils à la population. Tout ça, c'est pour éviter que la population tombe dans la pauvreté chaque fois. On ne doit pas être là pour attendre tout ça. Nous devons prendre des mesures. Pour le bien-être, il faut toujours suivre les conseils pour éviter aussi de s'appauvrir davantage.
Actualité internationale.
Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a signé un décret très commenté, diffusé jeudi 4 décembre. Le texte vient redessiner l'organisation de la primature et renforcer les moyens du Premier ministre. L'objectif affiché est de conférer plus de performance dans la conduite de l'action gouvernementale. Sa révélation intervient dans un contexte de froid installé au sein du tandem de l'exécutif depuis plusieurs semaines. Elle a donc suscité une vague de réactions sur place.
L'invité.
L'invité de ce journal est Francine Muyumba, sénatrice honoraire et cadre du Front commun pour le Congo FCC. Elle réagit à la signature jeudi de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington DC. Elle reste sceptique quant à la mise en œuvre des engagements pris au regard, selon elle, du climat de méfiance ayant caractérisé les signataires. Francine Muyumba répond aux questions de Grace Amzati Massanzi.
Francine Muyumba, bonjour. L'accord signé à Washington insiste sur le respect de l'intégrité territoriale et le désarmement des groupes armés, y compris la neutralisation des FDLR par la RDC et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Quel niveau de confiance accordez-vous à la sincérité des engagements mutuels pris à Washington et quelle chance accordez-vous à cet accord sur le plan national?
Bon, aucun Congolais ne peut être contre la paix. Et je pense qu'il n'y a aucune sincérité des engagements mutuels pris à Washington entre les deux pays. Le body language en diplomatie en dit beaucoup. Nous avons été témoins d'un accord signé dans un climat de méfiance totale. Et moi, je pense personnellement que la paix est loin d'être une réalité sur le terrain, tant que les dynamiques internes et les dissensions qui fragilisent notre cohésion nationale persistent. Et je pense que l'histoire nous enseigne que même des accords majeurs, comme celui des camps David entre Israël et Palestine, n'ont pas suffi à mettre fin au conflit. Et je pense personnellement que la paix durable exige d'abord ou d'aborder le problème en profondeur. En panafricain, je reste convaincu que la paix au Congo doit d'abord venir des Congolais que nous sommes, tout comme la paix en Afrique doit être menée par les Africains.
Alors, un volet important de l'accord concerne la mise en place d'un cadre de coopération économique régionale et d'un partenariat stratégique avec les États-Unis pour l'exploitation des minerais. Comment évaluez-vous le risque de cet accord?
Comme vous le savez, sans transparence, sans un débat national, on peut facilement glisser vers des clauses déséquilibrées, voire même des pièges qui engageraient les pays dans des obligations contraires à nos intérêts. Je pense une fois de plus que la priorité absolue doit rester la paix dans l'Est de notre pays. Mais une paix négociée dans la clarté avec un contrôle parlementaire réel et la participation des communautés concernées, ce qui est fait sans ces communautés ou ce qui est fait sans nous est toujours fait contre nous. La solution, je pense, demeure le schéma proposé par nos pères spirituel, dont la CENCO et les CC, pour la tenue d'un dialogue national inclusif.
La plateforme Elamouka de l'opposant Martin Fayulu a qualifié cet accord de véritable capitulation pour la RDC. Partagez-vous au FCC l'avis qu'un accord de paix de cette ampleur, sans un consensus national impliquant l'opposition et la société civile, est voué à la fragilité?
Laissez-moi rappeler ici que l'accord de paix a été signé le 27 juin 2025 à Washington par les deux gouvernements respectifs. Conformément à l'article 214 de notre Constitution, tout accord de paix doit obligatoirement être soumis au Parlement pour adoption d'une loi d'autorisation, de ratification, avant toute validation ou entérinement ou mise en œuvre par l'exécutif. Juste après signature à Washington de cet accord, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda ou le gouvernement rwandais l'avait soumis immédiatement auprès de son Parlement pour ratification. Mais les Congos, lui, non. Ce qui signifie qu'en ce moment même, la République démocratique du Congo n'a aucune obligation juridique d'exécution de cet accord tant qu'il n'y a pas encore eu ratification. La RDC ne peut donc pas être contrainte d'exécuter l'accord tant qu'il n'a pas été approuvé par le Parlement congolais. Chose qui justifie peut-être la méfiance du côté rwandais. Car la RDC peut se retrouver ou se réveiller un jour ou se voir dans l'incapacité d'exécution de l'accord et politiquement utiliser le Parlement pour son rejet. Et du coup, diplomatiquement, ça ne peut créer une méfiance totale. Donc, ça démontre le manque d'engagement sincère et ça fragilise la confiance diplomatiquement. De l'autre côté, j'ai vu la RDC signer malgré elle, dans la paire, devant des obligations qui demeurent incertaines dans le cadre de la mise en œuvre, ou peut-être impossibles parce que la RDC a été piégée.
Francine Muyumba, je vous remercie.
C'est aussi par ici que nous mettons un point final à notre journal de ce matin, coordonné et supervisé par Jude Mister Bilandankoumar, et un clin d'œil à Jean-Claude Nsiala Mwana Makengo Nsoalo qui l'a mise en onde. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.